Babil, Babel, Babylone.
Babil, Babel, Babylone, c'est tous les dimanches de ce mois d'octobre 2006 à 13h30 sur La Grenouille, une collaboration avec le Journal de la Friche autour des champs croisés du langage, de la construction sociale et des migrations humaines. L'émission d'aujourd'hui est consacrée à une auteure, Sonia Chiambretto, qui travaille la langue à partir d'entretiens et de conversations qu'elle mène depuis une dizaine d'années avec divers groupes de gens. Sonia Chiambretto a écrit Chto, interdit aux moins de 15 ans, Monk et Pie Blanc, 12 sœurs slovaques et Épisode. Épisode, une publication issue du projet Territoire de langue, initié par Suzanne Joubert et le Théâtre des Bernardines. C'est un projet qui confrontait le texte d'Eschyle, Agamemnon, aux vivants des diverses langues françaises du centre-ville de Marseille aujourd'hui. Avant Territoire de langue, Sonia Chiambretto avait commencé à collaborer avec le Théâtre des Bernardines, c'était il y a plusieurs années, sur la manifestation Les Informels.
Oui, voilà, j'ai participé aux Informels 2003. L'idée, c'était d'emmener dans chaque théâtre, puisque les Informels se passaient sur plusieurs lieux, c'était d'emmener, de transporter ce qui se passait, ce qui se disait, ce qui se vivait dans un théâtre, dans l'autre théâtre. Donc, j'enregistrais les comédiens, les metteurs en scène, etc. Ensuite, je faisais des transcriptions fidèles de ce qui était dit. Ensuite, je faisais un travail sur la langue. J'écrivais un texte à partir de l'entretien. Ce texte était mis en affiche. Et les affiches circulaient dans chaque théâtre. Et donc, ça mettait en miroir et en regard ce qui se passait. Donc, l'idée, c'était de faire circuler la parole et de dessiner une géographie, comme ça, de cette parole, des théâtres, quoi, hein, des informels, voilà. Et ça avait été beaucoup de travail. En plus, moi, à chaque fois, je suis un peu comme ça, là, je titube parce que je sais jamais, je promets beaucoup et puis après je suis toute seule, donc je cours mon magnétophone, mon ordinateur, enfin c'est un peu. Puis il faut que les gens veuillent bien me rencontrer et puis tout ce qui. Et je m'étais régalée dans ce travail. Et Suzanne Joubert m'a proposé de participer à son projet Territoire de langue, qui est un projet elle voulait travailler sur les écarts de langue et les langues de métier, notamment dans le centre-ville de Marseille. Donc l'idée était de proposer à un artiste ou à un écrivain de s'emparer du projet. Donc on a commencé comme ça et elle m'a donné le texte d'Agamemnon, l'Agamemnon d'Eschyle, traduit par Pierre Judet de la Combe, une nouvelle traduction, la dernière, qui est chez Fayard d'ailleurs. Et elle m'a dit voilà, tiens. Et moi je me suis dit oui, d'accord. Je suis rentrée chez moi, j'ai commencé à lire ce texte, ce magnifique texte, je n'ai rien compris au départ. C'était une langue très belle, mais bon, je me disais qu'est-ce que je vais faire avec ça dans le centre-ville de Marseille. Voilà, je suis partie avec mon texte sous le bras et j'ai organisé, bon c'est un grand mot, mais une lecture collective de ce texte dans la ville. C'est-à-dire que je suis allée sur plusieurs lieux pendant 2 ans. Et on lisait le texte, page après page. Et donc il y avait une espèce de relais de la lecture. C'était drôle. Nous le lisions ensemble. Parce que moi aussi, je découvrais le texte. C'est pas moi qui emmenais le texte à lire. J'avais le texte et voilà, on le partageait. Et j'ai rencontré des gens qui. Je suis allée à l'ADEF, c'est un centre où il y a beaucoup de gens qui arrivent de l'étranger et qui ne parlent pas la langue encore, qui sont là, qui viennent apprendre à parler le français. Donc ce texte toutes ces histoires de langue. Eux-mêmes qui ne parlaient pas le français. Ça a été vraiment quelque chose de fabuleux. Parce que je crois que c'est avec eux que j'ai... Enfin, je pense qu'on a fait la plus belle lecture de l'Agamemnon d'Eschyle. Vraiment. Et dans le texte d'Agamemnon, il s'agit de la guerre quand même, du désastre, de la guerre, du quand même Agamemnon qui rentre, qui dévaste tout, qui tue, qui a un gros méchant guerrier. Et les gens qui étaient là venaient de quitter des pays en guerre. Et donc, vraiment, ça a fait écho tout de suite. Et en tout cas, on a passé 2 ans ensemble. Alors, quand je dis 2 ans ensemble, évidemment, ça a changé beaucoup. Puisque je rencontrais des gens puis qui partaient hein, au bout de 3 mois, enfin que je ne retrouvais plus. Puis je rencontrais d'autres gens. Mais voilà quoi. Moi j'ai beaucoup voyagé. J'ai beaucoup voyagé dans cette histoire parce que je me souviens, je suis arrivée avec le texte d'Agamemnon dans une salle, il y avait 32 personnes. Ils venaient de tous les pays. C'était vertigineux, je me suis dit, il y avait un bruit pas possible. Au début, on ne se comprenait pas. Et ce texte au milieu. Et en fait, c'est la poésie. Parce que c'est ça, c'est que entre nous, ne s'est agi que de poésie au départ. C'est vraiment le texte qui a été fédérateur. La rencontre s'est faite sur le texte. Et on s'est régalé, c'est incroyable. Enfin, et j'ai beaucoup de mal à parler de cette expérience parce que vraiment, c'est presque après, c'est devenu intime comme.
Babil, Babel, Babylone.
Suzanne Joubert est auteure, elle travaille au Théâtre des Bernardines. Elle a initié le projet Territoire de langue.
Alors le travail sur la langue, bon, comme j'écris un peu, c'est quelque chose qui m'intéresse de fait. Et je l'ai entamé aux Bernardines depuis pas mal d'années avec un projet qui s'appelait La petite topographie littéraire de Marseille, qui était tout un travail sur les littératures des communautés de Marseille, que ce soit l'Arménie, l'Italie, l'Espagne, le Vietnam, la langue arabe à travers diverses communautés. Et donc c'est une préoccupation pour moi importante parce que je pense qu'avec la langue, on devient possesseur de ses moyens. C'est une arme. La langue est une arme, il faut le savoir. Et en commençant par sa langue maternelle. Donc ça c'est un projet qu'on a terminé l'année dernière. Et cette année, je travaillais avec Alain Fourneau sur Agamemnon d'Eschyle. Donc j'ai travaillé pendant un an avec un traducteur, puisque l'Agamemnon a été écrit par un grec ancien, il y a 2458 ans exactement. Et travaillant sur la traduction, je m'étais dit, mais c'est extraordinaire de travailler sur du grec ancien, et de voir un peu comment aujourd'hui, à quoi ressemble notre langue aujourd'hui, la langue française donc, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et j'ai eu la curiosité d'interroger cette langue à Marseille, au centre-ville, en me disant que ça serait peut-être étrange de l'interroger à partir justement d'un document aussi, d'une langue aussi ancienne que le grec. Alors c'est très compliqué comme ça, d'où ça vient, mais c'est des choses qui naissent petit à petit. C'est des intuitions qui naissent du travail, en sachant que la langue d'Eschyle est une langue très structurée. C'est le discours tragique. C'est donc une langue qui invente la pensée. Hein, on voit de la pensée en train de défiler, puisque la tragédie, on ne voit jamais d'action, mais on voit du discours en train de se faire. Et c'était ça, les Grecs anciens. C'était que la langue était matrice d'un pouvoir et d'un discours en train de se faire. Donc je me suis dit, tiens, si je devais analyser la langue d'aujourd'hui à Marseille, qu'est-ce que je pourrais faire? Et je me suis dit, ce qui serait bien, c'est d'amener Ce texte ancien, La langue des Chiles, traduite par Pierre Judé de la Combe, qui est un merveilleux traducteur, spécialiste en philologie grecque et philosophe, d'amener des morceaux de cet Agamemnon dans la ville. C'est-à-dire aller voir des associations, des lycées, des élèves, leur apporter ce matériau, un peu comme on apporte un petit trésor, quoi. Quelque chose qui, a priori, est très difficile, et voir comment ça réagit par rapport à ça. Ça, c'était l'intuition de départ. Et puis, j'ai rencontré un auteur qui s'appelle Sonia Chambretto, qui travaille beaucoup, au départ de son travail d'écriture, en tout cas en ce temps-là, elle travaillait sur des conversations avec des gens qu'elle rencontrait, des groupes de gens divers, et son travail m'a intéressée. Et puis, ce travail-là, s'est transformé donc en travail d'écriture, puisque maintenant, elle écrit, elle est même jouée et mise en scène par notamment Hubert Gola, puis j'espère par d'autres qui viendront après. Son travail à elle sur la conversation avec les gens, je me suis dit, il y a quelque chose à faire ensemble. On s'est dit, il y a quelque chose à faire ensemble, et on a entrepris ce travail « Territoire de langue ». Alors, ça m'est venu aussi d'une aventure qui m'est arrivée dans le métro, puisque je viens travailler en métro le matin, et où il y avait un groupe de jeunes gens un jour. Ils discutaient ensemble et je ne comprenais absolument rien à ce qu'ils racontaient. Par contre, je comprenais avec leur mimique ce qu'ils pouvaient bien se dire. Mais le français avait tellement bougé dans leur langue que beaucoup de choses m'échappaient. Et je me suis dit, mais c'est quand même fabuleux. Il faut qu'on aille à la rencontre de tous ces Français-là, puisque c'est ces diversités de langues qui nourrissent l'auteur. Un auteur dit contemporain, l'auteur qui est vivant au temps de son époque, donc qui écrit, il se nourrit à la langue de la rue. Gilles Deleuze a fait un très beau livre là-dessus qui s'appelle Kafka, ou la langue mineure, je crois, et où justement il dit que c'est la langue du peuple qui est la langue qui nourrit la langue savante. Donc c'est dans ce terrain-là qu'on se nourrit. Et alors tout ça nous a amené à ce projet, Territoire de langue. Alors donc, ce projet, au départ, c'était ça, c'était aller voir, avec des morceaux d'Agamemnon, d'Eschyle, comment les gens réagissaient dans différents groupes. Et puis, petit à petit, le projet a été, par Sonia, en a fait un projet plus... un projet d'écriture personnelle à elle, et puis quand même un projet d'écriture aussi au sein du projet lui-même, qui est apparu sous un numéro de revue que nous suivons qui s'appelle Épisode, où elle a mis en face à face et des paroles du quotidien qu'on a rencontrées et des paroles d'Eschyle. Donc c'est un face à face entre Eschyle et Marseille aujourd'hui, j'ai envie de dire, et la langue d'aujourd'hui. Voilà, tous les croisements qu'il peut y avoir, en sachant que par exemple dans un des groupes, une jeune femme qui venait, je crois, du Rwanda ou du Tchétchénie, nous a dit quand même cette parole extraordinaire, Eschyle, quand il parle de la guerre, il parle de la mienne. Et ça, c'est quand même par rapport justement aux paroles des médias qui sont plus généralistes. La parole poétique, on s'est rendu compte que même si elle était difficile, elle rassemble et elle fédère. Parce qu'elle parle, c'est une parole sensible avant tout.
C'est ça que tu retiens de cette première étape ?
Ce que je retiens, c'est que d'abord... quand j'entends dire que les textes compliqués, les gens ne peuvent pas les entendre, c'est faux. Si on les amène, si on les parle ensemble, et si c'est pas plus compliqué le français d'Eschyle que le français d'aujourd'hui pour certaines personnes, que la poésie parle à tout le monde, si on se donne la peine de la transmettre, que c'est des en commun, hein, ça nous met en commun. Qu'il ne s'agit pas de faire ni de la démagogie ni de l'angélisme, mais quand même, si on a envie d'avoir des terrains de rencontre, on peut les avoir autour de la langue. Et aussi que les langues, justement, de ces gens qui arrivaient d'ailleurs, qui n'avaient plus l'occasion de parler, sauf entre eux, hein, le fait de se traduire entre eux des choses, puisque, par exemple, quand on amenait des morceaux de texte au centre de formation, il y avait des gens de tous les pays, notamment une jeune arménienne qui ne parlait pas du tout français, qui venait de débarquer. Donc, on s'est aperçu que les autres, qui venaient soit d'Algérie, soit de Tchétchénie, essayaient d'expliquer dans leur langue et à travers le français qu'ils connaissaient un peu, à la jeune arménienne, ce que ce mot voulait dire. Et c'était des mots qui roulaient comme ça, et c'était assez fabuleux à entendre, je dois dire, oui.
Et c'est un travail qui fait beaucoup d'aller-retour entre langue orale et langue écrite aussi.
Oui, complètement, mais c'est ça qui anime les auteurs aussi. Hein. C'est la langue orale et la langue écrite est très proche. Les mouvements de la langue sont très... C'est le mouvement dans la langue qui est intéressant quand on écrit. Bien sûr, il faut bien connaître la syntaxe, le français, le bon français, mais surtout quand on écrit du théâtre, la langue orale, elle est primordiale. On n'écrit pas du théâtre comme on écrit du roman. Hein. C'est pas pour rien si on écrit du théâtre, c'est malgré soi. Et c'est une parole... on n'entend pas des voix. Moi, je ne suis pas du tout du genre à en dire, j'entends des voix, je les transcris, c'est pas du tout ça. Mais c'est comment on fait jouer la langue, les mots, comment les mots se jouent pour être retransmis, quoi. C'est une retransmission.
Quelles ont été les difficultés de ce projet ?
La difficulté de travailler avec des groupes qui étaient fluctuants, puisque ce sont des groupes migratoires, souvent. La difficulté de tenir sur une longue année les mêmes partenaires de travail au niveau des groupes. Mais en fait, le projet, on pouvait aussi bien rencontrer des gens sur 2-3 fois, parler ensemble du texte et puis passer à d'autres gens. C'est pas un projet, c'est pas des ateliers de lecture, des ateliers d'écriture, ça va chercher complètement ailleurs, quoi. Ça rencontre, à partir de la langue d'Eschyle, à partir d'un texte comme ça, l'expérience des autres. Voilà, dans leur langue et dans la langue française, en tout cas ce qu'ils peuvent en appréhender.
Ces territoires au singulier de langue au pluriel, c'est une autre façon de dire l'homme ?
C'est une autre façon de dire le corps de l'homme, sa pensée, qui sont des choses qui se traversent. Et oui, c'est une autre façon de dire l'homme, oui. Le territoire, évidemment, c'est le centre-ville, on en a fait, mais ça aurait pu être tout à fait un autre ailleurs, quoi, hein, puisque je travaille aussi en Corse là-dessus. Mais c'est l'homme, oui. Oui, l'homme.
Quelle va être la suite ?
Alors, je ne sais pas. Sonia, elle suit son parcours d'auteur maintenant. Je ne sais pas si on reviendra à travailler ensemble. Peut-être, oui. La suite, en tout cas... moi, je travaille, je vais me consacrer à l'Agamemnon qu'Alain est en train de monter, qu'il va créer à Moscou avec une équipe russe, aussi travaille sur la langue russe, donc en mars 2007, et ensuite à Marseille en 2007-2008. Donc là, je vais me consacrer à ce travail-là, mais c'est pas dit qu'à travers ce travail, je réinterroge pas le travail de la traduction avec d'autres personnes.
Babil, Babel. Babylone.
Donc il y avait le texte au centre. On lisait le texte. Soit on lisait un passage.
La question qui m'intéresse, c'est
puis,
ça.
Puis quelqu'un prenait le relais. Même si c'était très... Enfin, des gens qui ne savaient pas lire ou bien qui ne parlaient pas la langue encore, la langue française. Donc c'était des mots, hein, c'était des parcelles de textes. Et ensuite, ça a entraîné une discussion. Mais la discussion, elle était dans le corps de la langue du texte. Enfin, par exemple, je me rends... Pour les gens qui venaient d'Algérie ou du Maroc, Tunisie, c'est une langue qui est l'Agamemnon, très métaphorique, et c'est une langue qui peut tout à fait être partagée, qui finalement est très proche de la langue des Algériens ou des gens qui arrivent du Maghreb. Donc ça déclenchait des images, ça déclenchait... et puis surtout, on parlait beaucoup des poètes et des artistes des pays d'origine, des gens qui partageaient ce projet avec moi. Sans cesse, ça donnait l'occasion de discuter de ça, quoi, de littérature. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Je veux dire par là qu'en fait, bon, ce qui a été important pour moi dans ce travail, c'est que les gens arrivent de leur pays, ils arrivent avec leur culture, leur langue, enfin, tout ce qui fait... Donc ils arrivent en France et hop, il y a une machine qui est, y a une machine qui se met en route qui est terrible, quoi. Et pourtant, les travailleurs sociaux, les gens qui sont autour d'eux, enfin, font très bien leur travail. Je dis pas, c'est pas leur travail que je remets en question, mais c'est un système comme ça où on perd complètement son identité. On n'est plus rien, quoi. On est des gens qui ne savent pas parler. Enfin, je dis on, nous, qui ne savent pas parler. Des gens qui ne savent pas parler, voilà. Des gens qui forcément qui n'ont pas d'histoire. Dans la mesure où on ne parle pas la langue, on arrive, on ne sait pas parler français, donc on n'a rien, on n'a rien à raconter. Sinon, ce temps d'arriver, sinon, voilà... J'essaie de rentrer dans ce pays, j'essaie de me mettre à l'abri. Mais les gens sont complètement infantilisés. Moi, je trouve ça terrible. Hein. Il n'y a pas de rencontre possible, j'ai l'impression. Enfin, entre quand. Et aussi... Les gens étrangers, quand ils rentrent en France, il y a un tel souci d'être accepté, de pouvoir rester dans son mètre carré, là, le temps qu'il faut, qu'ils s'abandonnent. Et je pense qu'ils s'abandonnent. Ils se mettent à correspondre à ce que l'autre attend de la personne étrangère, quoi. C'est-à-dire, bon, alors ils se mettent à être eux aussi un peu. Voilà. Ils se font tout petits. Et leur langue devient toute petite. Tout devient tout petit, quoi. Enfin, moi, j'ai vraiment cette impression que tout se rétrécit. Moi, quand on s'est rencontrés, et grâce à ce texte, hop, ça a ouvert. Ben oui, c'est que chacun est. Enfin voilà quoi, il y a de la poésie et il y a des grands artistes au Caire, il y a en Tchétchénie, enfin à Grozny. Donc on a partagé ça et je crois que ça au moins ça circule. Ça continue de circuler, une chanson, elle circule. Enfin, on n'est pas toujours en même temps. Mais... Non, voilà, moi, c'est ce travail-là. Mais bon, c'est difficile pour moi d'expliquer ça. Parce qu'après moi, il y a tout un... Moi, je ne me sens pas étrangère quand j'arrive dans un groupe. Je me sens toujours un peu de cette histoire. Alors, c'est possible de discuter, c'est possible d'échanger. C'est plutôt pas mal, ça. L'écriture, elle commence toujours avant, même avant les rencontres. Par exemple, là, j'allais rencontrer des gens qui arrivaient donc de pays étrangers, qui arrivaient d'autres pays, qui parlaient pas la langue, etc. Mais moi, mon travail d'écriture a déjà commencé avant même de les avoir rencontrés. Ensuite, j'enregistre des conversations croisées, mêlées, donc c'est un vrai brouhaha de toute façon. Et moi, quand j'écris et quand j'ai fait épisode, il y a un vrai montage. Il y a une écriture, c'est un peu comme au cinéma, il y a une circulation dans l'épisode. C'est pas comme ça, pêle-mêle, des bribes de conversation. Il y a toute une circulation, puisqu'on part d'un endroit et on arrive quelque part, hein, dans ce texte. Et d'une part, et d'autre part, je me sers des enregistrements comme matériaux de langue. C'est vraiment je vais chercher la langue de chacun et cette langue commune à eux tous au bout d'un an. Cette nouvelle langue qui est quand même faite de tous ces gens qui arrivent de partout, qui apprennent le français ensemble, et ça donne une langue qui est
le français,
que moi j'appelle une langue française étrangère. Donc c'est pareil pour mon texte sur la Légion, c'est pareil pour les sœurs slovaques, c'est tout le temps, mais ce qui est drôle, c'est tous ces gens qui viennent de pays différents, donc qui ont déjà une langue, qui ont leur propre langue, et qui apprennent le français ensemble, avec les acquis de leur langue. Enfin, moi, je trouve ça... Et en plus, dans une même situation, quoi. Des gens qui ont pris le bateau, l'avion, enfin, qui sont arrivés, qui ne sont pas sûrs d'avoir leurs papiers et tout. Donc, forcément, il y a quelque chose dans la langue qui est... Ouais, qui est vrai. C'est intéressant de voir comment ça se met en place. Par exemple, quand j'ai écrit mon texte sur les légionnaires, mon képi blanc, le personnage, quoi, dans le texte, il ne dit pas « je vais mettre de la distance entre ça et ça, enfin, j'ai besoin de prendre du recul ». Non, lui, il dit « je mets du terrain ». Tu vois, il dit pas oui, il dit affirmatif. Enfin, c'est là-dessus que je travaille, non pas sur l'histoire, la petite histoire de la personne. C'est vraiment sur la langue.
C'est comment l'histoire de la personne
langue.
Existe à travers les mots qu'il emploie.
Ouais, dans sa langue. C'est cette langue. Toujours liée à la circulation, au déplacement, à la perte d'identité, à la nouvelle personne. À sa communauté, puisque là le légionnaire est avec les légionnaires, et les légionnaires sont, c'est pareil à la Légion par exemple, il y a des Polonais, des Allemands, des Algériens, et tous ces gens arrivent, hop, un uniforme, ils vivent ensemble et ils se mettent à parler la langue là où ils se trouvent, et donc c'est quand on parle avec les légionnaires, avec des légionnaires. Bon, mais il y a quand même toute une... Il y a une représentation comme ça. Il y a vraiment un paysage sonore qui appartient à la Légion, quoi. Et derrière, on voit les colonies, on voit... Enfin, et voilà, c'est pareil pour les sœurs slovaques. Les sœurs slovaques, elles partagent... Elles sont dans un couvent avec des Polonaises, des Italiennes. Elles ont toute une direction, elles suivent le même chemin, elles arrivent de... Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse, dans la langue, hein, je parle.
12 sœurs slovaques. À genoux, 6 heures, dans la chapelle, à jeun, méditation, cloche, 8 heures, debout, couture, nous, œuvrons pour le trousseau des sœurs, jardinage, nous, œuvrons pour les jardins des frères, cuisine, nous, œuvrons pour la communauté. Prière. Cloche. Récréation en communauté. Prière. Cloche. Couture. Œuvrons pour la communauté des sœurs. Jardinage. Nous. Œuvrons pour les jardins des frères. Cuisine, nous, œuvrons pour la communauté, prière. Midi, repas en communauté, à genoux, prière. 13h, dans la chapelle. Méditation, couture, et vous, pour la communauté des sœurs, jardin. Nous, et vous, pour les jardins des frères, cuisine, nous. Et vous, pour la communauté, prière, cloche, 17h, debout, conférence, prière, cloche, couche.
En fait, sur la trilogie, les trois textes, chaque fois, c'est une traversée européenne, en matière, mais liée à l'exil, d'une guerre. C'est quitter un endroit en guerre, c'est arriver dans un autre endroit, c'est ce que j'ai raconté tout à l'heure. Mmh. Et l'effacement de la personne du corps, je veux dire, hein, dans sa circulation. C'est le nom, c'est le changement de nom. Et effectivement, il y a la langue qui est là, qui prend, et c'est mon écriture, ça. Et c'est vrai que ces trois textes, il y a vraiment cette. Je crois que c'est ce qu'on peut lire. Mais...
Sœur Victoire, Justina. Sœur Abel, Olga. Sœur Hyacinthe, Ambrosa. Sœur Ambroise, Teresa. Sœur Brigitte. Sœur Anne. Sœur Joseph, Sonia. Sœur Hippolyte, Petra. Sœur Delphine, Bertha. Sœur Berthe, Adela. Sœur Angèle, Magdalena. Sœur Élise, Isabella. Sœur Germaine, Lenka. Sœur Simone, Gisela. Sœur Bénédicte, Suzanne. Sœur Véronique, Sœur Marie de Béthanie, Monique. Sœur Monique. Et moi, Katrina.
Sœur Rose.
Venons toutes de la même région. Bratislava. Secret. À l'autre bout. Entre Carpates et Patras. Pas loin de Cracovie. Une montagne en chaîne. Sur la frontière, après, plaine et forêt, du côté de la Hongrie, au port, Danube, communiste, pas encore.
Comment ça se passait avec les autres groupes de territoire de langue, parce qu'il y avait d'autres groupes.
Alors, donc, il y avait cet endroit-là, j'ai parlé. Puis après, il y avait le lycée Victor Hugo. Alors là, c'était des lycéennes. Et donc, on a travaillé sur la cour comme métaphore de la guerre encore. Hein, mais c'est très clanique avec... Il y a les skaters, il y a les... Il y a les Schultz, je ne sais pas quoi. Et donc, on a travaillé là-dessus et comment ça circule et comment on parle quand on est un skater, comment on parle quand on est... on fait partie des intellos, comment on parle, chaque groupe, le vêtement...
Là, c'est pas la même histoire qu'avec les...
Ouais, mais sauf qu'au lycée Victor Hugo, comment ma mère est arrivée en France, comment mon père... est reparti dans son pays, comment je suis ici au lycée Victor Hugo, et que je suis métisse, et que je ne suis pas au lycée Thiers, et pourquoi je ne suis pas au lycée Thiers. Non, c'est...
Tu es allé à Thiers?
Oui. Et ben, c'est une fausse idée qu'elles avaient, les filles du lycée Victor Hugo, parce qu'au lycée Thiers, oui, comment je suis arrivée du Vietnam. Et donc là, c'était une autre, les Khmers. Parce que comme c'était un texte sur la guerre, enfin sur la guerre, il s'agit de la guerre dans Agamemnon, il ne s'agit pas que de la guerre. Bon. Mais enfin, après, il y a toute la dramaturgie, toute la tragédie. Mais c'est ça qui était... c'est ce que ça déclenchait. Et après, c'est moi, c'est moi comment je me projette là-dedans aussi, avec mes propres guerres, mes histoires d'exil, pas mon histoire. Les correspondances de Manosque en 2005, puis à Actoral 2005 pour Chteau 1. Et mon képi blanc a été à Sarrebruck, en Allemagne. Bon, là, il va voir les douceurs slovaques. Oui, le travail, en fait, de l'entendre, le texte, c'est vrai que c'est différent. C'est différent le lire et l'entendre. Hubert Collat travaille sur mon texte. Parce que moi, quand j'écris, il y a une forme sur le papier, il y a une mise en espace du texte sur la page, qui est une écriture, qui est vraiment une écriture, qui n'est pas un effet graphique, qui n'est pas tout ça, qui est vraiment, pour moi, qui est écrit. Et Hubert Collat travaille sur ça. Donc chaque espace, chaque... Il le travaille comme une écriture. Et c'est très intéressant, vraiment pour moi, de voir ce qu'il en fait, nos échanges. Et... Alors, par exemple, dans Chteau, oui, dans Chteau, il y a des flèches, il y a des déplacements qui sont fléchés. Mais lui, sur le plateau, il en fait quelque chose. Il ne met pas des flèches. C'est travaillé dans la langue, c'est travaillé, c'est dit. Voilà. Mais pour Douceur Slovaque aussi, je ne sais pas quel exemple donner, mais non, puis il y a des pages blanches. Donc tout ce temps, tout ces... enfin, dans les Douceurs Slovaques, il y a de l'amnésie. Et lui, il le travaille vraiment. Mais il le travaille dans le dire de la comédienne et non pas dans la scénographie. Ce qui est... Et en fait, oui, d'entendre les lectures de Hubert peut parfois influencer mon écriture. Ouais. Il y a quelque chose vraiment qui est... c'est un travail à deux en fait sur les textes maintenant. Voilà. Après ça va s'arrêter avec Hubert forcément un jour, mais pour le moment moi je suis très contente de la manière dont il travaille sur mes textes, vraiment très contente.
1. Des pieds à la tête. Il m'a enlevé ma valise. Qu'est-elle devenue? Je n'ai plus rien de ce que j'avais. Mon bel édredon en plume, il l'a mis en commun. J'ai fait mes vœux et il m'a détaché de tout. Nous autres, nous n'avons plus rien. Plus rien ne nous appartient. Nous ne sommes plus que...
Juste pour finir sur territoire de langue, t'as passé un certain temps avec tous ces groupes de gens. Quelle perception ça t'a donné de la ville de Marseille, enfin du centre-ville et de la langue qui est...
Non, je pense que Marseille, bon, moi c'est une ville que j'aime beaucoup, hein, Marseille. Et ce que j'aime, c'est justement tous ces gens, c'est toute cette mixité. Mais c'est cloisonné quand même. Les gens ne se rencontrent pas. Et ça, c'est assez. Je pense que. Oui, c'est dommage, mais les gens ne se rencontrent pas. Et d'ailleurs, dans le travail que je fais, c'était ça. C'est qu'après, j'ai fait rencontrer tout le lycée, les lycéennes du lycée Victor Hugo ont rencontré tout le monde. Puis moi, j'ai emmené les enregistrements dans les lieux, d'un lieu à l'autre. Mais je trouve, voilà, les gens ne se rencontrent pas. Je raconte toujours ça, c'est que quand j'ai travaillé, quand j'ai rencontré cette jeune fille tchétchène et donc sa famille, c'était très réduit, hein, sa maman et elle, et des cousins qui arrivaient, 18 ans, qui fuyaient la guerre. Donc c'est les garçons qui arrivent en premier et qui sont sauvés.
C'est Chto, ça.
Ouais, pas c'est Chto. Oui, c'est à l'origine et c'est ce qui m'a donné envie d'écrire Chto. Donc je les ai beaucoup fréquentés et donc je me suis promenée à Marseille avec cette jeune fille et sa maman. Et ben, j'étais plus dans la même ville et j'ai pris le métro, j'ai circulé dans les rues, mais je n'étais plus à Marseille avec elle. On était transparente, vraiment. C'est-à-dire qu'on ne marche pas de la même manière. On ne prend pas les mêmes rues. On est au milieu, on est près des morts. Et surtout, rentrer chez la rue, c'est qu'elle n'a plus 30 ans qu'elle avait vu Sneak, avec revu, autre vu, toi, étranger. Grosse. Mais comme continuer un peu comme en toi. Et cette bande quand leur ami dans la rue, je dis que moi j'avais seul, j'aurais pas. Pourtant il était différent dans ce danger, ses vêtements et tête. Là il parlait de son lit peut-être en plus tchétchène. Et moi c'était comme là Marseille. Là, des endroits et c'est un monde qui est là et qui est pas visible, c'est oui. Et quand on prend le métro par exemple, qu'on est dans le métro, qu'on est dans le wagon, je pense qu'on voit chacun, on voit pas les mêmes choses. Il y a une espèce de vision là, sélective. On voit pas trois personnes tchétchènes assises côte à côte un peu serrées comme ça avec un foulard autour de la tête ou du cou, mais qui sont et ces trois personnes, elles sont là depuis 3 mois et leur immeuble était complètement éventré, il n'y avait plus de possibilités, elles ne parlaient plus depuis des semaines, c'était la terreur. Et elles sont là 3 mois après dans ce métro assises et complètement invisibles, on ne les voit pas, enfin, on ne se rencontre pas. Moi, je sais que la jeune fille, je suis la première personne à qui elle a vraiment parlé. Donc c'est quand même assez fou. Ça faisait plusieurs mois qu'elle était là et je suis la première personne à qui elle a réellement parlé. Quoi. Je suis la première personne d'ici quoi, à être rentrée chez elle. Voilà, je trouve ça... Oui, je l'ai rencontrée. En fait, elle était venue 2 jours à la DEF, mais seulement 2 jours. Et ensuite, elle est tombée malade, elle est partie. Bon. Et moi, je demandais ce jour-là à chacun d'où ils venaient. Puis je disais d'où je venais, moi, de Digne-les-Bains. Et je leur demandais d'où ils venaient. Et quand elle m'a parlé, enfin, je lui ai demandé parce qu'elle ne m'a pas répondu. Et j'ai insisté. Et en fait, elle a chuchoté. Pour me dire d'où elle venait, elle m'a dit Tchétchénie. Moi, quand elle a chuchoté, c'est le fait qu'elle chuchote, d'un coup, je me dis, non, elle chuchote pour me dire, puis hop, c'est tout. Et on s'est regardé, on s'est rencontré, vraiment. Ensuite, elle est partie, puis je l'ai retrouvée. Et tout comme moi, je lui ai raconté comment c'était à Digne, comment. La montagne. Voilà, c'est ça. C'est que par exemple, je lui parlais de Digne, de l'hiver et de la neige. Et elle me disait que elle avait la nostalgie de la neige, quoi, et que la neige lui manquait. Et je me suis rendu compte, je me suis dit, ouais, elle est à Marseille, près de la mer, quoi. Elle vient du Caucase. Et donc, on a échangé sur la neige, mais vraiment longtemps. Et bon, moi, ça m'arrive pas souvent de parler avec quelqu'un de la neige pendant des heures et des heures, quoi. La neige, comment est la neige, quoi. Si elle est mouillée, si elle n'est pas mouillée. Moi, j'ai écrit un texte là-dessus. Et c'est ça qui est... C'est ces échanges-là aussi. Voilà. Et je pense pas qu'on lui demande comment elle trouve la neige. Là où elle va chercher ses papiers.
150 euros par jour.
Enfin, ça, c'est vraiment des grandes aventures. Quoi. Là, c'était une grande aventure.
Babil. Babel. Babylone.
C'était Territoire de langue, une émission réalisée dans le cadre de Babil, Babel, Babylone, une thématique sur la grenouille imaginée en collaboration avec le Journal de l'Afrique.
Ce qui m'intéresse, c'est ça.
Vous avez pu y entendre les auteurs Sonia Chambretto et Suzanne Joubert. Chto, interdit aux moins de 15 ans, de Sonia Chambretto, est publié chez Inventaire Invention. C'est un livre qui va donner lieu à un atelier de création radiophonique de France Culture. Prochain rendez-vous avec Babil Babel Babylone dimanche prochain à 13h30, une émission autour des langages du théâtre. Mm-hmm.